La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une question ce matin, que retiendra le monde de Jacques Chirac? On a beaucoup parlé depuis hier de son refus de la guerre en Irak en 2003, de sa politique pro-arabe au Proche-Orient. Mais vous Camille, vous avez voulu revenir sur un autre chapitre marquant de la politique étrangère de Jacques Chirac.
Oui, car s'il y a une région du monde où se multiplient ce matin les hommages à l'ex-président français, c'est aussi, il faut bien le dire, l'ex-Yougoslavie. Son éclatement par la guerre en 1993 a bien sûr dans un premier temps marqué la fin de la présidence de François Mitterrand. Mais pour la chaîne de télévision des Balkans N1, qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien Jacques Chirac, à peine arrivé à l'Elysée fin 95, qui a insisté auprès des Américains pour accueillir la conférence de paix où les accords dits de Dayton ont été signés.
L'espérance qui se lève pour tous les peuples de l'ancienne Yougoslavie n'effacera certes pas les 200 000 morts du conflit le plus meurtrier que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec son cortège de souffrances, ses millions de blessés et de réfugiés, et ce déchaînement de l'horreur laissera une blessure profonde au cœur de l'Europe.
Alors en voyant les hommages plutôt froids qui lui sont réservés dans les journaux serbes et beaucoup plus chaleureux dans ceux de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie, on comprend vite que l'élection de Jacques Chirac en 1995 a vu un revirement clair dans la position de notre pays dans ce conflit des Balkans. Là où Mitterrand, nous dit The Daily Beast en Amérique, avait envoyé des casques bleus français mais rechignait à condamner les atrocités commises par Slobodan Milosevic, par l'armée serbe et les Serbes de Bosnie, Jacques Chirac, lui, s'est tout de suite rapproché, une fois élu, de Bill Clinton pour mettre fin au massacre. Ensemble, ils ont soutenu l'intervention armée des Croates et mis à genoux Milosevic, contraint de signer les accords de Dayton. C'est là qu'est né l'État de Bosnie-Herzégovine, jeune nation dont l'ex-président français restera comme l'un des parrains, sinon des pères. En 2011, nous rappelle Radio Slobodna Evropa, Jacques Chirac avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Sarajevo. L'on se souvient des mots qu'il était venu y prononcer en avril 98.
Vive la Bosnie-Herzégovine, vive sa jeunesse et vive la paix.
La paix, Jacques Chirac en aura été l'un des plus fervents artisans dans la région. C'est en tout cas ce que retient la chaîne N1, désormais diffusée dans toutes les républiques d'ex-Yougoslavie. À noter qu'hier, au moment où la tour Eiffel s'éteignait en signe de deuil à Paris, le vieux pont de Mostar, symbole de la guerre en Bosnie et du fragile retour à la paix, était éclairé, ce pont en bleu, blanc, rouge.
Et au-delà de ces hommages bosniaques, de nombreux médias à travers le monde s'interrogent depuis hier sur cette étrange passion qui semble unir la France à son ancien président.
Oui, c'est l'avantage de lire les journaux étrangers et de comparer avec ce qu'on écrit chez nous. On se rend compte qu'en échappant aux passions nationales, en prenant du recul, on commence à voir les choses un peu différemment. Moins de 24 heures après la mort du président, il y a apparemment des choses qu'on ne peut pas encore écrire dans la presse française. Alors c'est dans le quotidien britannique The Independent que la journaliste française Clémence Michalon ose affirmer ceci. Jacques Chirac était loin d'être parfait et ça ne devrait pas poser de problème de le dire ou de l'écrire en France. Clémence Michalon vit et travaille à New York. C'est donc un peu ébahi qu'elle a vu sur son fil Twitter hier affluer des messages émus et uniquement hagiographiques de la part de proches dont elle savait qu'ils n'étaient pourtant pas politiquement des fans de l'ex-président. Alors la journaliste pose la question, quand cessera cet unanimisme obligatoire, cette amnésie collective qui nous pousse à faire comme si le négatif n'avait pas sa place dans le deuil? Pourquoi éluder le discours sur le bruit et l'odeur et le travailleur français en 1991 où la condamnation à 2 ans de prison avec sursis en 2011. C'est en jugeant nos dirigeants politiques dans leur globalité, dit Clémence Michalon, que nous pourrons choisir les prochains avec sagesse à l'avenir. Conclusion donc dans The Independent. Mais faut-il s'étonner que nous réagissions avec autant de passion sélective, de sentiments quand on nous explique, comme le fait Hugh Schofield sur le site de la BBC, que Jacques Chirac était avant tout un caméléon politique qui avait charmé la France. Son charme gaulois, nous expliquons, arrivait à faire oublier jusqu'à l'ampleur colossale de la corruption au RPR ou à la mairie de Paris. Mais même si l'on s'en tient à cette image d'un Chirac en premier des charlatans politiques de son époque, en hypnotiseur sans cervelle, prompt à mettre les Français dans un état second, c'est toujours Hugh Schofield qui écrit cela, on ne peut nier qu'il était à l'image des Français, ou en tout cas, il leur plaisait car il leur renvoyait un reflet proche de l'image qu'ils voulaient avoir d'eux-mêmes. Chirac aimait les gens, la vie, il mangeait, buvait et trompait fidèlement sa femme. Il sortait tout droit d'une époque où la France irradiait la confiance en soi et le pouvoir économique. C'était à l'époque terriblement séduisant et ça a fait oublier aussi bien son inconsistance divergences idéologiques que sont l'absence totale de loyauté en politique.
Mais la BBC à la dent dure, ça ne s'arrange pas avec Politico.
Oui, là encore, c'est un Britannique, Paul Taylor, correspondant en France du site d'information européen, qui prend la plume pour nous expliquer que Jacques Chirac incarnait cet attachant échec français. Échec à s'adapter à une décennie de déclin où le président n'aura pas réussi à mener les réformes nécessaires. Le ratage retentissant des retraites en 1995 l'avait convaincu que la France, disait-il, était irréformable. Alors il a renoncé à endiguer la montée des inégalités sociales et les premiers effets de la mondialisation de l'économie, comme s'il n'avait pas voulu voir le changement de logiciel mondial qui était à l'œuvre, tant il était issu de l'ancien monde, de l'ancienne France, bien décidé à conserver coûte que coûte l'illusion de sa perpétuation. Tout ça n'est pas très réjouissant ni très valorisant pour notre pays, il faut bien le reconnaître. Et comme il faut bien se remonter le moral aussi, on terminera en zappant sur la télévision japonaise Asahi TV. Où la mort de Jacques Chirac est présentée comme celle d'un familier du Japon et de sa culture. D'ailleurs, sur le site d'info japonais jiji.com, on peut lire l'hommage rendu par la Fédération Nippone de Sumo, où l'on sent l'émotion contenue d'une discipline qui passionnait le président français au point d'appeler, on le sait bien, son chien Sumo et de donner son nom à un tournoi international, on le sait moins, où l'on remet chaque année à Nagoya la coupe de Sumo, Jacques Chirac.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale.